France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
L'art contemporain ne manque pas de détracteurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et parmi les critiques les plus récurrentes, il y a celle assez tenace qui lui reproche d'être devenu, au fil du temps, un art officiel. C'est précisément cette question qu'aborde de manière assez frontale, dans un ouvrage important et très documenté, l'historien de l'art Nicolas Hémendinger. Il la replace dans une perspective historique, mais aussi une perspective comparée. Que s'est-il passé dans les politiques publiques de l'art contemporain entre la fin des années 50 et la fin des années 1970. Et il confronte pour poser cette question trois contextes différents, la France, les États-Unis et l'Allemagne. Nicolas Hémendinger est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Et c'est une artiste parmi les plus importantes de l'art contemporain que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à la suite dans les idées, Annette Messager, qui nous rejoindra pour la deuxième partie de l'émission pour dialoguer avec Nicolas Hémendinger de ce moment fondateur de l'art contemporain, du rôle clé de certaines institutions en France, mais bien au-delà, puisqu'Annette Messager a eu l'occasion de vivre ces transformations depuis le début de sa carrière, au fond, et dans différents pays, notamment ceux concernés par votre ouvrage, Nicolas Hémendinger, la France, mais aussi les États-Unis et l'Allemagne. Alors, c'est un gros livre qui paraît aux éditions du CNRS. Vous êtes docteur en histoire de l'art et en théorie de l'art. Vous êtes aujourd'hui chercheur postdoctoral à l'Université de Nanterre. Et vous publiez ce livre aux éditions du CNRS, dans la collection de Gisèle Sapiro. C'est un gros livre qui a le mérite d'apporter beaucoup d'éléments factuels, historiques, mais aussi des éléments de réflexion, des hypothèses extrêmement étayées, qui toutes permettent de comprendre, au fond, cette question qui peut demeurer un peu mystérieuse et dont certains se saisissent pour critiquer de façon un peu idiote, faut le dire, l'art contemporain. Mais en gros, ce qui est mystérieux, c'est comment, alors même que les avant-gardes se sont construites contre le pouvoir, et en particulier les pouvoirs publics, c'est l'histoire de l'art du 19e siècle, on la connaît bien, comment à un moment donné, ces avant-gardes, pas les mêmes, parce que c'est celles qui sont les héritières des premières, sans doute, ont pu bénéficier de politiques publiques qui leur étaient clairement destinées. Dans quelle mesure elles ont été associées, ces avant-gardes, à la mise en œuvre de ces politiques publiques? Pour essayer de répondre à ces questions, vous vous êtes penché sur trois situations, c'est un travail colossal. Qu'est-ce qui se passe à la fin des années 50 qu'on peut qualifier et que vous qualifiez de véritable renversement dans le monde de l'art?
Oui, on voit émerger en fait à la fin des années 50 à la fois de nouvelles politiques publiques dans la plupart des pays en fait du bloc occidental à cette période. En France, c'est par exemple en 1959 la création du ministère des Affaires culturelles. Aux États-Unis, c'est la création en 1965 du National Endowment for the Arts, qui est une sorte d'équivalent un peu particulier quand même du ministère culturel français. En Allemagne, c'est un peu plus diffus, mais on voit se développer également ces politiques culturelles d'un nouveau genre qui mettent parmi leurs prérogatives le soutien à la création contemporaine et qui vont soutenir de manière de plus en plus systématique des formes d'art non conventionnelles qui étaient auparavant exclues à la fois de ces politiques publiques et des institutions qui en dépendent, c'est-à-dire les musées, les centres d'art, les biennales, qui auparavant exposaient dans le meilleur des cas un art moderne, déjà historique, consacré, et dans le pire des cas marginalisé, excluait totalement l'art des avant-gardes.
Alors, ça s'explique par beaucoup de facteurs. Un des premiers que vous pointez, c'est les transformations dans le monde des musées, à proprement parler. La muséographie n'est pas la même et elle va se transformer d'une manière telle que ça va leur permettre au musée d'accueillir la création la plus contemporaine. De ce point de vue, il y a une institution absolument fondatrice qui est le MoMA.
Oui, bien sûr. Cette muséalisation, en fait, de l'art moderne, elle est antérieure à la période sur laquelle je me concentre, c'est-à-dire qu'elle s'est produite tout au long du XXe siècle. On a des expérimentations dès le début du XXe siècle, avant même la création du MoMA, notamment en Allemagne, avec de premiers musées qui s'ouvrent aux avant-gardes de l'époque, expressionnisme allemand, etc. Et puis, dans les années 1930, aux États-Unis, se créent les grands musées qu'on connaît aujourd'hui, comme le Guggenheim ou le Museum of Modern Art, qui devient un peu la référence incontestée depuis sa création en 1929 jusqu'aux années 60, où justement ce modèle du MoMA commence peu à peu à être remis en cause. Finalement s'ouvre à partir des années 60 une génération nouvelle qui va être symbolisée par la création notamment du Centre Pompidou en France, qui récapitule un certain nombre d'innovations muséographiques qui sont engagées dans l'immédiat après-guerre, aux Pays-Bas, en Allemagne, dans les pays scandinaves, etc., et qui cherchent à pousser encore d'un cran, finalement, la reconnaissance de l'art moderne en avant-gardisant le musée lui-même. C'est ça la principale évolution qui se produit finalement à cette période.
Alors, vous avez parlé du Centre Pompidou, il en sera beaucoup question dans cette émission, parce que on en parlera aussi à la fin de l'émission. Mais en fait, vous vous arrêtez au moment de l'ouverture de ce centre. D'une certaine façon, la naissance du Centre Pompidou, qui a été immédiatement un succès public en France, est le point final de cette période de mise en place d'une forme de politique publique qui va évidemment perdurer, sans doute se transformer. Mais malgré tout, c'est cette période d'invention, de genèse qui va durer une bonne vingtaine d'années, un peu plus, presque 30 ans, qui vous intéresse.
Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est le point final, parce qu'en réalité, il y a toute une histoire postérieure. En France, les années 80 sont...
Point final de votre recherche, en fait.
C'est le point final de ma recherche, c'est pas le point final de l'histoire. Mais dans les années 1980, bien sûr, en France, il y a de nouveaux développements dans le champ des institutions de l'art contemporain. La création, par exemple, des fonds régionaux d'art contemporain. Et puis, il y a évidemment également, à l'échelle internationale, une multiplication à cette période des institutions dédiées à la création contemporaine. Mais disons que le Centre Pompidou marque un premier point d'achèvement de cette évolution, où on part finalement sur une période quand même relativement courte. À la fin des années 50, le Musée National d'Art Moderne en France est situé au Palais de Tokyo. C'est un musée qui est détaché de l'actualité artistique, c'est un musée qui reçoit peu de public, c'est un musée qui est détaché aussi des grands courants artistiques internationaux, et qui a aussi bien dans son architecture que dans sa scénographie finalement des modes de monstration des œuvres d'art qui restent assez conventionnels. Et en l'espace de quelques années, on voit cette transformation s'opérer, et le Centre Pompidou donc est un des aboutissements. Mais en Allemagne, on voit également des évolutions du même type dans les musées, dans les centres d'art qu'on appelle les Kunsthalle outre-Rhin, et également dans la grande exposition internationale qui est la Documenta de Kassel, qui change du tout au tout entre sa fondation en 1955 et les années 70, notamment une édition très célèbre qui est celle de 1972, ou qui est un peu comparable finalement au cas du Centre Pompidou, au sens où elle aussi, elle bouleverse complètement les cadres du musée pour faire place finalement à l'avant-garde la plus récente.
Alors cette période, c'est aussi la période durant laquelle non pas s'invente, mais se systématise probablement les politiques publiques en matière de culture, au-delà de l'art contemporain, la question de l'art contemporain étant un sous-domaine en quelque sorte. Et vous faites l'hypothèse que, au fond d'ailleurs, l'art contemporain va bénéficier de la création de politiques culturelles, et on va se poser la question de savoir comment adapter à l'art contemporain des choses qui étaient peut-être plus évidentes et plus naturelles, et qui concernaient notamment le spectacle vivant, qui était un petit peu le précaré de la politique culturelle à bien des égards.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est un des résultats importants, je crois, de cette recherche. C'est que finalement, ce tournant avant-gardiste des politiques et des institutions publiques n'a pas été voulu comme tel. Il n'y a pas de décideur politique qui s'est réveillé un matin en disant « nous allons soutenir l'avant-garde ». C'est le résultat d'un certain nombre d'évolutions historiques qui sont, pour une partie, non souhaitées. Et le développement des politiques culturelles est motivé au premier chef par l'élargissement de l'accès à la culture, la création contemporaine fait partie de cette culture, mais elle n'en est pas forcément l'objectif premier. Et au sein même de l'art le plus récent, les arts plastiques n'occupent pas, comme vous le disiez, la position préférentielle. C'est plutôt le théâtre, le spectacle vivant qui font l'objet des principales politiques de décentralisation et de démocratisation culturelle. En France, avec les maisons de la culture d'André Malraux notamment, parce qu'ils se prêtent plus finalement à... D'abord, c'est plus facile de faire circuler des pièces de théâtre que des œuvres d'art. Et puis, il y a des formes qui sont peut-être plus accessibles.
Ils se prêtent plus sans doute à l'objectif ou au discours de la démocratisation culturelle, qui va être la grande antienne de cette politique culturelle, qui continue de l'être à bien des égards, en fait. Donc il se tient dans une tradition qui est celle du Festival d'Avignon, par exemple, de Jean Villard. Ce sont les grandes références. Et les arts plastiques sont un peu à l'écart, au fond, de ça au départ, mais ils vont en bénéficier.
C'est ça. Mais de toute façon, je parlais des maisons de la culture, par exemple, dans lesquelles, qui étaient censées être polyvalentes dans leurs activités, qui finalement ménagent une place assez mineure aux arts plastiques et se concentrent donc sur le spectacle vivant. C'est la même chose aux États-Unis, où la fondation du National Endowment for the Arts, le NEA, ce fonds fédéral pour les arts qui représente la première politique, en fait, aux États-Unis orientée vers l'art et la culture. Là aussi, met d'abord en avant la question du spectacle vivant. Il y a de grandes questions à ce moment-là, dans les années 60, en fait, sur la viabilité économique du spectacle vivant. On se dit que il faut absolument que la dépense publique vienne compléter le mécénat privé, sans quoi en fait l'augmentation des coûts de production d'un spectacle ne pourra plus être couverte, ou à moins d'augmenter considérablement finalement le prix des billets. Donc c'est notamment ces enjeux-là d'économie du spectacle vivant aux États-Unis qui jouent un rôle majeur dans la mise en place de la première politique culturelle fédérale outre-Atlantique.
Et en Allemagne?
Et en Allemagne, les choses sont un petit peu plus différentes, dans la mesure où en fait ces politiques culturelles elles sont prises en... L'État central joue un rôle mineur, et ça se joue essentiellement au niveau des régions, les Länder, et des municipalités. Et la politique culturelle reste un sujet qui est finalement assez peu abordé avant la seconde moitié des années 60, où émerge la neue Kulturpolitik, la nouvelle politique culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, déjà, la culture rentre dans le débat public et est de plus en plus affirmée à partir de cette période comme une composante nécessaire des politiques publiques au niveau municipal, au niveau local et régional.
Alors si on veut reprendre cette question du mystère, cette question à résoudre de comment c'est possible pour une politique publique nationale de défendre les avant-gardes, aussi étrange que ça puisse paraître, il faut sans doute la replacer entre deux idées forces en fait, qui structurent un peu le débat et le cadre d'action à l'époque. D'un côté, j'en parlais à l'instant, la démocratisation culturelle, et de l'autre, sans doute quelque chose de plus ancien qui a trait à la culture légitime, à la légitimation de la culture populaire, ce qui précisément fait fuir les avant-gardes d'ailleurs, parce que ça s'est hérité de débats qui naissent dès le 19e siècle, dans l'art en particulier. Donc comment, au fond, se noue la situation précise de l'art contemporain entre ces deux grandes questions de la démocratisation culturelle d'une part et de la légitimation culturelle de l'autre?
Oui, en fait, au premier abord, c'est vrai qu'on voit mal pourquoi les États, les institutions publiques soutiendraient cet art anticonventionnel des avant-gardes, parce qu'elles semblent elles ne semblent pas répondre au but traditionnel de l'intervention publique dans la culture. Déjà parce qu'elles se présentent en tout cas comme anti-traditionnelles, ce qui va à l'encontre de la mission de ces institutions culturelles, notamment du musée, qui vise au contraire, en tout cas, normalement, à transmettre un patrimoine hérité. Mais aussi parce qu'elles vont à l'encontre de ce principal motif de développement des politiques culturelles dans les années 60, qu'est la démocratisation culturelle. En tout cas, en apparence, les avant-gardes, par leurs expérimentations, qui sont souvent, qui apparaissent souvent hermétiques, ésotériques ou provocatrices pour le grand public, sans mal correspondre aux objectifs de démocratisation culturelle, sans mal correspondre aux attentes du grand public. Et en même temps, elle semble mal se conformer également à un objectif qui serait celui de perpétuer, de continuer une haute culture historique. De sorte que ces deux objectifs un peu traditionnels des politiques culturelles semblent ne pas pouvoir expliquer le soutien qui est apporté à partir des années 60 aux avant-gardes artistiques.
Et du coup, comment l'expliquer? Vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas une décision, une volonté très claire de dire on va construire une politique dont la visée sera le fait de placer au cœur les avant-gardes. Est-ce qu'on peut l'expliquer alors aussi par le fait que ces institutions naissantes, nouvelles, encore fragiles pour certaines, notamment tout ce qui en France préfigure le Centre Pompidou, dont vous avez dit un mot, mais sur lequel on va revenir, sont peuplées, sont habitées d'acteurs particuliers qui vont être amenés à jouer un rôle. On peut ne serait-ce que citer peut-être ceux qui sont les plus politiques de ces acteurs. Vous rappeliez l'importance d'André Malraux tout à l'heure. On peut compléter cette liste, ne serait-ce qu'avec un président de la République, Georges Pompidou, et puis un ministre de la Culture, Michel Guy, pour avoir une idée des caractéristiques peut-être particulières de ces individus-là à ce moment-là.
Oui, bien sûr. En fait, c'est toute la. C'est ce que vous disiez en introduction, c'est ce que manque en fait cette accusation classique contre l'art contemporain qu'il dénonce comme un art officiel. L'avant-garde serait devenu le nouvel art officiel aujourd'hui. En réalité, ce qui se passe dans les années 60, c'est complètement différent de ces exemples auxquels fait penser cette formule, c'est-à-dire l'art académique du 19e siècle ou l'art de propagande des régimes autoritaires, puisque précisément cette reconnaissance de l'avant-garde, elle repose sur une libéralisation des politiques de soutien à la création, des politiques culturelle et sur la délégation des choix artistiques à des experts qui sont avant tout issus du champ de l'art ou qui sont en solidarité avec le champ de l'art, de sorte qu'il doit y avoir une distinction. C'est la condition de la légitimation, finalement, du soutien, des politiques de soutien à la création contemporaine en régime libéral. Pour se légitimer, elles doivent déléguer la décision artistique à d'autres personnes, finalement, que des élus ou des administrateurs qui seraient éloignés des affaires artistiques. Et c'est cette condition de légitimité qui va conduire, finalement, à importer au sein des institutions publiques les œuvres anticonventionnelles des avant-gardes.
Ça, c'est très intéressant si on fait l'effort de comparer avec le secteur des arts vivants, où on s'aperçoit que la structuration est très différente dans ces années 60, 70, même jusque dans les années 80 et 90, où on voit se mettre en place finalement des réseaux de coproduction croisés, de lieux de diffusion des spectacles vivants importants et dirigés par des artistes eux-mêmes. Donc on est loin du mécanisme de délégation à des spécialistes du choix des artistes ou des œuvres. On est plutôt dans un système que certains ont pu décrire comme un régime un peu féodal, avec des grands seigneurs qui renouvellent leur légitimité croisée en rendant possible des créations. En tous les cas, il n'y a pas de tiers d'une certaine façon, ce qui intervient dans les procédures de l'art contemporain, des arts plastiques. Ça, c'est, je trouve, très intéressant à la lecture de votre ouvrage.
Oui, il y a à la fois des points communs et des différences de ce point de vue-là. Il y a certains quand même cas dans lesquels la décision est déléguée aux artistes. Aux États-Unis, il faut absolument, évidemment, lorsqu'on crée ce fonds national pour les arts, se distinguer du contre-modèle soviétique, éviter de reproduire une culture dirigée, répressive. Et donc, toutes les décisions, finalement, d'attribution de subventions passent par ce qu'on appelle des peer panels, des comités de pairs, PAIR, dans lesquels siègent des conservateurs de musées, des critiques d'art, mais aussi des artistes. Et le principal responsable de la politique des arts visuels au niveau fédéral aux États-Unis dans les années 1970, c'est Brian O'Doherty, qui est un critique d'art réputé et qui est aussi un artiste proche des cercles, on va dire, minimalistes et conceptuels new-yorkais à cette époque, qui expose lui-même dans les espaces alternatifs. Donc il y a quand même une présence aussi des artistes ou gens qui sont proches des artistes d'avant-garde de l'époque dans les cercles de décision publique. Mais c'est vrai que cette logique de délégation des décisions artistiques, elle conduit surtout à faire émerger de nouvelles catégories d'intermédiaires. Alors, certaines sont assez spécifiques, comme les inspecteurs à la création artistique en France, mais au niveau international, c'est partie prenante notamment de l'émergence de cette nouvelle figure qui est devenue déterminante dans le monde de l'art contemporain, qui est celle du curateur, qui se diffuse notamment à partir du monde germanophone, où il y a un grand nombre de petits centres d'art, de petits musées d'art contemporain, où s'impose cette figure de l'organisateur d'expositions entièrement tournée vers la création contemporaine.
Figure qui aura plus de mal, je pense, à émerger dans le monde du spectacle, encore une fois, à l'exception peut-être du Festival d'automne, précisément, ou du Festival d'Avignon, mais endroit dirigé par des gens qui ne sont pas des artistes et qui vont jouer un rôle très très important dans la légitimation de certains artistes, en fait. Même si on voit bien qu'il n'y a pas un sens de l'histoire de ce point de vue-là, puisqu'il y a des retours en arrière et qu'on peut confier à certains moments la direction du Festival d'Avignon à un artiste, après l'avoir confié à un duo de curateurs, pourrait-on dire, de spectacles vivants pendant assez longtemps. L'autre chose, peut-être, qui distingue aussi le monde des arts plastiques et l'art contemporain d'autres domaines de la culture, c'est évidemment son économie. En fait, la question de la démocratisation et la question de la légitimation, ces deux questions ne se posent pas de la même façon dès lors que la pratique artistique est en partie adossée à un marché également, et dès lors qu'il s'agit de produire des œuvres qui ne sont pas des œuvres de masse. Enfin, il ne s'agit pas de films, il ne s'agit pas de livres, et puis ni même de spectacles. Donc, de ce point de vue-là, dans quelle mesure ça change et ça permet de mieux comprendre la place des avant-gardes, plus centrale peut-être dans le monde de l'art contemporain que dans les autres domaines, à l'intérieur du cadre des politiques publiques?
Oui, en fait, cette question de la délégation des choix artistiques représente un des premiers éléments d'explication de ce tournant avant-gardiste des institutions publiques dès la fin des années 50. Mais à partir justement de la fin des années 60, de nouvelles problématiques émergent, notamment dans le sillage des mobilisations politiques de l'époque, post-68, où on critique de plus en plus l'élitisme des politiques et des institutions culturelles. Et on réclame notamment l'inclusion, en tout cas l'ouverture de la culture officielle, qui était jusqu'alors concentrée sur la haute culture, vers des formes d'art ou de culture populaire. divers. Et le cas des arts plastiques est un peu particulier à cet égard, puisque comme vous le disiez, justement, il n'existe pas ou peu d'œuvres de grande diffusion qu'on pourrait inclure dans les institutions officielles de la même manière, par exemple, que des théâtres à l'époque peuvent à la fois programmer aussi bien Molière que du théâtre de boulevard, ou qu'on peut, dans une salle de concert, programmer un concert de rock ou de musique classique. C'est un peu plus difficile dans le champ des arts plastiques. Et l'hypothèse que je formule, c'est que finalement, le soutien à l'avant-garde, qui aurait pu apparaître a priori remis en cause par cette demande d'un art plus populaire, plus ajusté aux attentes et aux demandes du public, au contraire, a représenté une solution pour répondre à ces critiques, dans la mesure où il permettait finalement de conserver quand même un certain attachement aux institutions et aux normes de la culture savante, tout en remettant en cause néanmoins les formes traditionnelles de la culture d'élite. Et au fond, un certain nombre de curateurs, de responsables de programmes gouvernementaux, d'institutions publiques dédiées à la création actuelle, ont exacerbé leur soutien au courant avant-gardiste, ou en tout cas une partie d'entre eux, comme une manière d'afficher leur éloignement vis-à-vis des formes les plus aristocratiques de la culture.
Mais ça, c'est un phénomène qu'on trouve dans les trois pays que vous avez étudiés.
On le trouve dans les trois pays, on le trouve de manière, je pense, particulièrement marquée en Allemagne, où les institutions de l'art contemporain sont souvent, comme je disais, ces petits centres d'art, ces petits musées qui dépendent souvent d'administrations locales et qui disposent donc d'une grande autonomie, ce qui permet aux directeurs de ces institutions, aux curateurs allemands, souvent, parfois de se placer en opposition justement vis-à-vis de leur hiérarchie et d'adopter des tendances très politiques dans les années 1970. En France, c'est un peu différent, on le voit bien avec le cas du Centre Pompidou, qui cherche à la fois justement à s'ouvrir à un art, à développer finalement une version désacralisée du musée, à s'ouvrir à un art souvent plus festif, plus joyeux, éloigné de la culture assez sérieuse et solennelle qu'on trouvait encore dans les discours de Malraux, mais néanmoins dans une version qui est peut-être moins contestataire que ce qu'on trouve outre-Rhin et qui est un petit peu plus dans une logique de fête conciliatrice, réconciliant finalement la société, les artistes, l'État dans l'après-68.
Et aux États-Unis ?
Et aux États-Unis, c'est un petit peu différent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est peut-être des trois cas la politique de soutien à la création contemporaine qui est d'une certaine façon la plus irrémédiablement élitiste, on pourrait dire. En tout cas, il y a un engagement très fort. Je parlais de Brian O'Doherty qui prend la direction de ce programme gouvernemental à partir de la fin des années 60. Un engagement très fort en faveur de l'expérimentation artistique. C'est quelqu'un qui va développer un soutien gouvernemental à l'art conceptuel, à l'art vidéo, à la performance, qui va soutenir aussi, ce qui est assez étonnant, les espaces alternatifs qui sont considérés comme ces espaces en dehors justement des circuits habituels du monde de l'art et qui, ce qui n'est pas toujours connu, se sont en fait largement développés grâce à ces subventions gouvernementales. En revanche, il tend un petit peu à secondariser l'enjeu de la diffusion de l'art vers le plus grand nombre. C'est seulement dans ces programmes d'art public que la question se pose, puisqu'il faut décider, choisir, commander des œuvres pour les placer, notamment dans de petites villes moyennes du Midwest américain, par exemple, où là, évidemment, des conflits émergent tout de suite entre l'expérimentalisme souhaité par ces responsables de l'État fédéral et la population locale, qui est souvent assez hostile.
Alors, on le sait, cet art contemporain est très international, il est très globalisé, les œuvres, les artistes circulent, les curateurs circulent, sans doute plus globalisé que, encore une fois, d'autres domaines de la création. Il y a moins de barrières de la langue aussi, probablement, pas de question de traduction aussi importante. Dans quelle mesure les référentiels de politique publique sont également en circulation? Dans quelle mesure on assiste à des formes d'hybridation, à du benchmarking, comme on dit? Est-ce que les gens en charge en France regardent ce qui se passe en Allemagne, aux États-Unis, vice-versa?
Oui, tout à fait, à la fois au niveau des politiques culturelles en général et des politiques de soutien à la création contemporaine. La France joue d'ailleurs souvent un peu un rôle leader dans le développement de ces normes de mise en place des politiques culturelles via l'UNESCO, etc. Il y a un travail de Laurent Martin à ce sujet très intéressant sur la diffusion justement de ces modèles de politique publique, même si en réalité les choses sont très différentes. Par exemple, les États-Unis, lorsqu'ils mettent en place leur politique de soutien à la culture, se défient plutôt du modèle français qui juge trop centralisé, trop étatique, et s'inspire plutôt de l'Art Council britannique, plus conforme, disons, à leur vision libérale et peu interventionniste de l'action publique. Donc il y a des circulations, il y a aussi des formes d'émulation de plus en plus dans les années 1960. La diplomatie culturelle prend de l'importance et l'investissement dans la culture et en particulier dans l'art contemporain est vu aussi à l'aune de ces enjeux de rivalité ou d'émulation internationale.
Des compétitions avec les Jeux Olympiques de l'art contemporain à Venise par exemple, des choses comme ça?
Tout à fait, voilà, la Biennale de Venise et les grandes biennales internationales. Il y a la Biennale de Paris qui est créée dans ces années-là, sont une sorte d'image transparente de cette compétition, puisque puisqu'en fait, chaque pays, sous égide officielle, en général, les ministères, c'est le ministère des Affaires étrangères qui gère ça en France, choisit son artiste ou ses artistes, ses œuvres qu'il va exposer dans un pavillon. La Biennale de Venise, c'est une succession comme ça de pavillons officiels, comme autant d'écuries nationales qui sont en concurrence les unes avec les autres et qui vont s'engager finalement dans une forme de course à l'avant-garde pour faire reconnaître leurs artistes et leurs scènes nationales et pour faire rayonner finalement la culture qu'ils représentent.
Donc vous êtes intéressé à ces 30 ans qui vont de 59 à 77, grosso modo, période d'invention, de fabrication, de mise en place d'une politique ou de politiques publiques, puisqu'elles sont différentes malgré tout d'un pays à l'autre. Dans quelle mesure vous diriez que, au fond, ce qui se joue là, c'est ce moment d'invention, d'institutionnalisation de quelque chose, et tout ce qui s'est passé depuis peut se lire comme la suite? C'est-à-dire qu'on n'a pas profondément remis en question les grandes structures, les idées, les arguments sur lesquels reposent ces modes d'action publics en faveur de l'art contemporain.
Je pense qu'il y a eu quand même des évolutions importantes. Alors la notion d'art contemporain, hein, en tant que période artistique, on l'a fait émerger dans les années 60. D'une certaine manière, nous vivons toujours dans le monde de l'art contemporain tel qu'il s'est constitué à cette période-là. Et c'est d'ailleurs un des aspects importants de l'ouvrage, c'est qu'à travers cette étude des relations entre avant-garde artistique et institutions publiques, le renversement finalement des relations entre avant-garde et État, c'est aussi une manière d'expliquer les conditions sociales d'émergence de l'art contemporain, la clôture du long siècle de l'art moderne, des avant-gardes et l'émergence d'un nouveau champ artistique dans lequel on vit.
Qui est une nouvelle période, aussi une nouvelle périodisation pour les historiens de l'art.
C'est ça. Et l'hypothèse que je défends, c'est que ça n'est pas, ou pas seulement en tout cas, une rupture stylistique qui se produit à cette époque. Il y a énormément d'innovations artistiques dans les années 60-70, comme il en a existé tout au long du XXe siècle. Mais ce qui se produit surtout, c'est une transformation des structures sociales du champ artistique, puisque avec cette reconnaissance par les institutions officielles des formes d'art non conventionnelles, se résorbe en quelque sorte ou s'affaiblit un clivage qui s'était creusé dans la seconde moitié du XIXe siècle entre ce qu'on pourrait appeler un pôle novateur et un pôle conservateur, entre une partie du champ de l'art qui était engagée en faveur de l'innovation artistique, le pôle où se trouvent les avant-gardes, et une partie du champ de l'art qui était notamment dominée par les institutions officielles et qui résistait à ces innovations et qui cherchait au contraire à perpétuer un certain nombre de conventions établies. À partir des années 60, à partir du moment où ces institutions qui se trouvaient justement plutôt du côté de la perpétuation des conventions s'engagent au contraire, ou en tout cas incluent entre leurs murs les œuvres de l'avant-garde, eh bien ce clivage entre nouveauté et tradition ou convention se résorbe et fait émerger donc un nouveau type de champ artistique qui est celui dans lequel on vit encore aujourd'hui.
Un champ artistique qui a changé à certains égards, parce que d'aucuns pourraient être frappés par le fait que vous vous intéressez à l'action publique, aux politiques publiques d'art contemporain, quand vient probablement à l'esprit de beaucoup d'auditrices et d'auditeurs le fait qu'aujourd'hui l'art contemporain est plutôt associé à des acteurs, de gros acteurs privés, à des fondations dont on a parfois le sentiment qu'elles viennent remplacer les institutions publiques. C'est notamment le cas à Paris, mais dans toutes les villes concernées, aux États-Unis, c'est peut-être le cas depuis encore plus tôt, et en Allemagne, sans doute. Alors, comment interpréter tout ça? Est-ce que, d'une certaine façon, l'action publique a rendu possible une infrastructure dont sont venus bénéficier par la suite de gros acteurs privés qui seraient, en quelque sorte, les opérateurs, désormais, bien contents de bénéficier de cette infrastructure, Clément?
Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a à la fois des éléments de continuité vis-à-vis de la période que j'étudie et de vraies transformations. Il est clair que, notamment en France, l'émergence des fondations privées dans le champ de l'art contemporain depuis à peu près les années 2000 a représenté un changement majeur. On associe aussi souvent l'art contemporain à la puissance du marché de l'art, et c'était un certain décalage aussi que je proposais justement avec ma recherche, c'est-à-dire finalement ce qui est nouveau dans les 50 ou 60 dernières années.
C'est pas le marché de l'art.
Le marché de l'art émerge en fait avec l'art moderne. De cette façon, les artistes modernes dépendent largement au 19e siècle de l'émergence de marchands d'art, de ce qu'on appelle aujourd'hui des galeries, qui s'ouvrent à l'art expérimental, à un moment au contraire où les institutions officielles leur sont fermées. Alors ça veut pas dire que le marché de l'art n'est pas changé depuis le 19e siècle. Il s'est considérablement développé, notamment depuis les années 80-90. Mais en tant que tel, l'existence d'un marché dédié à l'art contemporain n'est pas neuve. En revanche, l'existence, la multiplication de ces musées, de ces biennales, de ces centres d'art ouverts aux œuvres les plus récentes et les plus transgressives, ça représente une nouveauté très importante à l'échelle de l'histoire de l'art et même à l'échelle plus généralement de l'histoire longue des rapports entre art et État.
On continue à parler de votre recherche et de ce fort volume, Nicolas Aimandager, dans la deuxième partie de l'émission. Vous restez avec nous et l'artiste Annette Messager nous rejoint. C'est après un extrait du nouvel album du leader de Wilco, Jeff Tweedy, Out in the Dark.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Out in the dark, out in the dark, out in the dark, under the money tree. Well, there's no spark beyond belief. There's no point, definitively. Where do we stop? Where do we start? Out in the dark. There are no stars, you were a flower to me. No satellites, it's an empty street. No houses, no cars. How did it go? How did it go? Yellow rose, how did it go? Out in the dark.
Continue de parler d'institutions publiques et d'art d'avant-garde. C'est le sous-titre du livre de Nicolas Aimandager dont nous parlons aujourd'hui. On en parle aussi avec vous, Annette Messager. Bonjour. Vous êtes une artiste très très importante aujourd'hui qui l'est devenue au fur et à mesure de la mise en place de cette période. On peut dire que vous avez commencé à exposer à peu près au milieu de cette période, au début des années 70, dans un moment où le Centre Pompidou n'existe pas, mais il est en quelque sorte en préfiguration. Dans son livre, votre nom apparaît, dans ce livre dont on parle aujourd'hui, il apparaît au début des années 70 comme une artiste faisant l'objet d'expositions personnelles, au fond très jeune dans sa carrière. On va y revenir, c'est le cas en 1974 avec une exposition très importante à l'Arc, au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Mais vous ne faites pas partie d'une autre exposition qui a lieu deux ans auparavant, qui s'appelle 60-72, une exposition pour laquelle je me suis renseigné parce que je voulais trouver la liste exacte des 72 artistes vivant, présenté à l'époque comme étant l'art contemporain à Paris. Et dans ces 72 artistes, savez-vous, Annette Messager, combien de femmes il y avait?
Il ne peut pas en avoir beaucoup, ça. S'il y en a deux...
Deux, voilà. Oui. Vous avez gagné. Il y en a deux. Il y a Sheila X et Nikita Saint-Phal. Et c'est tout. Donc, 2 sur 72. Je pense que ça dit quelque chose aussi de l'état de l'art contemporain au moment où vous avez commencé.
Oui, j'étais assez isolée à ce sujet. Mais vous parliez, c'est vrai que la France, c'est un pays où tout est concentré à Paris. Mais moi, comme j'étais prof longtemps à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, La renommée du CAPC était internationale.
Un centre d'art qui était à Bordeaux, enfin qui est toujours à Bordeaux.
Oui, parce que Chaban-Delmas donnait des moyens. C'était Jean-Louis Froment, qui n'était d'ailleurs pas conservateur, donc ça énervait beaucoup les vrais conservateurs qui ont des diplômes et tout ça. Mais j'ai vu des expositions de Sol Lewitt, des expositions extraordinaire, meilleure que les expositions à Paris, dans les musées, à ce moment-là. Ça, c'est une exception culturelle, je trouve.
Oui. Non, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, justement, au moment où Paris et l'État central étaient un peu en retard, quand même, il faut le dire, en France, au début des années 60, dans la reconnaissance de l'art contemporain, il y avait des expériences qui se déroulaient en dehors, justement, de la capitale et qui ont été pionnières à cet égard. Vous avez parlé du CAPC, qui est, en gros, quasiment le premier centre d'art contemporain créé en France. Il y a aussi, je crois que vous avez exposé dans le musée de Grenoble dans les années 1970, qui était un des rares musées, alors lui, depuis presque le début du XXe siècle, quasiment le seul musée en France à s'être ouvert d'abord aux avant-gardes historiques dans les années 20, et puis qui continue d'exposer de l'art actuel à cette époque.
Annette Messager, si vous faites l'exercice de revenir à ce moment-là, dans ces moments, enfin en lisant ce livre, on a le sentiment qu'il se passe quelque chose de pas encore cristallisé en fait, c'est-à-dire avec des expériences possibles. Vous parlez du CAPC. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Moi, j'ai toujours eu le sentiment quand je discute avec des artistes contemporains que en fait, sans doute beaucoup plus que les artistes dans d'autres domaines, ils sont souvent de très grands sociologues de leur univers. Ils sont obligés, pour des tas de raisons, de comprendre comment ça marche, beaucoup plus que les autres artistes. Est-ce que vous partageriez ce constat? De qui fait quoi? Quelles sont les relations de pouvoir?
Oui, parce qu'on est quand même très isolés. On est au début un artiste, il n'est pas du tout soutenu, mais ça, sans doute dans tous les arts d'ailleurs. Et à ce moment-là, il y avait peu de relais. Mais il y a des personnes qui sont très importantes. Les humains sont plus importants que les lieux. Hein. C'est toujours été, et j'espère que ça sera toujours. Mais évidemment que le Centre Pompidou a changé énormément les choses. De voir ce bâtiment-là en plein cœur de Paris et qui est devenu très attrayant, très populaire, ça a changé complètement la vision de l'art contemporain pour le monde entier. Même si on s'en moque toujours, et tant mieux. Mais moi, quand j'ai commencé, il y avait tellement peu, s'intéressait tellement peu de gens, et les personnes qui s'y intéressaient ou les quelques collectionneurs, c'était vraiment des gens qui croyaient, qui s'investissaient, c'était pas à la mode. Parce que c'est un peu terrible, la mode, aujourd'hui, dans le domaine artistique.
Vous avez, je le disais, eu l'occasion, et vous avez toujours l'occasion d'exposer partout dans le monde. Là, il est question de trois pays, la France, les États-Unis et l'Allemagne. Quelle expérience vous avez eue avec ces deux autres pays? L'Allemagne qui a été souvent perçue comme un pays très très important à cause de ses Kunsthalle, de la possibilité d'y faire des expositions personnelles qui sont des monographies.
D'abord parce que c'est moins centralisé que la France. Et dans les années 70, il y avait un Allemand critique d'art qui habitait à Paris et qui relayait tout le temps, qui écrivait des articles sur l'art contemporain, les jeunes artistes. Et il avait écrit un article sur moi qui apparemment Était très j'ai exposé à Munich assez tôt au musée d'art contemporain. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, la Kunsthalle.
Oui, il y en a plusieurs. Ouais, je ne sais pas.
Oui.
Oui, peut-être la Bauhaus. Pardon pour l'accent, mais.
Donc par exemple. J'ai pas de lien jamais avec l'Angleterre, hein, mais bon, il se passait pas grand-chose à ce moment-là en Angleterre.
Non, il a fallu attendre la fin des années 1980 probablement pour que ça commence à bouger un peu. Et les États-Unis ?
Les États-Unis, oui. Oui, j'étais assez sollicitée assez tôt par une exposition. C'était au musée de Los Angeles la conservatrice m'a dit on va essayer de faire reprendre à Chicago, à New York, mais le MoMA ne reprend jamais une exposition. Il fait une exposition qu'il offre aux autres. Eh ben, ils l'ont reprise. Donc, voilà, cette exposition au MoMA était... assez importante parce que... Mais je crois que c'est parce que en même temps, je crois que on est souvent en admiration devant les artistes d'autres pays, les Américains. Et moi, j'ai jamais voulu ni essayer d'être en compétition, ni... J'ai fait mes petits trucs qui sont devenus importants parce que c'est l'accumulation, c'est le trop plein. Mais je travaillais avec des bouts de tissu, avec des photographies, des choses, des broderies. Je cherchais pas à imiter des grands peintres. Et ça, je crois que c'est ça qui les a un petit peu intéressés.
Est-ce que vous vous êtes posé la question dans ces années de démarrage, au fond, quand vous avez commencé à exposer, est-ce que vous vous êtes posé la question de qui est celle posée dans le livre, du risque qu'il pouvait y avoir quand on est une jeune artiste à pactiser avec l'État, au fond, à être reconnu par l'État. Est-ce que c'était quelque chose de...
Non, vous ne pensez pas à l'État, non, pas du tout.
Il n'y avait pas le risque de l'art officiel, on s'en fichait complètement. Au contraire, vous saisissiez toutes les opportunités.
Oui, non. Non.
C'est intéressant comme témoignage, Clément.
Oui, tout à fait. Oui. Après, il y a peut-être aussi la relation au musée, moi, qui a été quand même beaucoup interrogée, peut-être, par les artistes. Et dans les années 70, vous-même, vous présentiez comme collectionneuse, ce que je trouve intéressant.
Mais un musée comme l'Arc, qui a été très important, grâce à Suzanne Paget, qui l'a porté, c'était pas... Bah, d'ailleurs, c'est un musée sans collection. Donc... C'est même pas un musée, quoi. Musée sans collection, ça n'existe pas. C'est pas un musée. Donc, c'était un lieu très important parce que la personne était très importante. Oui. Mais ça aurait pu être ailleurs.
Donc, vous
le Centre Pompidou a changé beaucoup. Hein.
Mais là encore, du fait de quelques personnes importantes.
Ah ben, oui. Oui.
Vous voulez dire que c'est compliqué de routiniser le charisme, d'institutionnaliser les choses quand les gens sont plus là, et d'assumer des manières de faire.
Ben heureusement qu'il y a des évolutions et que ça change.
Et qu'il y a de nouvelles personnes formidables qui apparaissent.
Oui, mais souvent on est lié à certaines personnes. Oui, à une certaine époque, à un certain milieu, oui, c'est normal.
Clément Emmelinger, vous avez observé ça. Vous ne l'avez pas mis en œuvre. On pourrait avoir une approche en termes de réseau, par exemple, pour essayer de cartographier la succession de différents réseaux.
Oui, c'est clair. À cette période-là, en particulier, un moment où ces institutions, elles sont encore nouvelles, mal établies, souvent contestées d'un côté comme de l'autre, aussi bien par les artistes que parfois par leurs autorités de tutelle, le rôle des personnalités est absolument essentiel. C'est quelque chose qui a peut-être un peu changé aujourd'hui, où le monde de l'art contemporain s'est professionnalisé, où il y a beaucoup plus de personnes qui sont ouvertes justement à ces créations récentes et novatrices. Dans les années 60-70, ça dépend souvent de l'action d'une personne. Le cas du Centre Pompidou est peut-être particulièrement exemplaire, puisque ça a été son succès est aussi dû à Pontius Sultane, qui l'a dirigé lors des premières années, et que la succession de Pontius Sultane a été marquée au contraire par un conservateur de musée qui était un petit peu moins novateur, aussi bien d'un point de vue des choix artistiques que des choix muséographiques. Et c'est le cas, c'est ce qu'on retrouve ailleurs également. Il y a des conflits, par exemple en Allemagne, au sein des curateurs d'art contemporain, entre des gens qui sont très ouverts vers l'avant-garde de l'époque, parfois la plus contestataire et politisée, et d'autres qui sont très réticents à embrasser ces choses-là et qui considèrent qu'il faut plutôt se replier sur un art historique. Donc les personnes jouent un rôle évidemment absolument essentiel dans...
Et ça doit toujours être comme ça ?
Tout à fait.
Vous disiez tout à l'heure, Annette Messager, que vous n'étiez pas du tout dans la compétition en parlant des débuts en France, mais vous vous êtes trouvé dans, malgré vous, j'imagine, dans des formes de compétition internationale, en acceptant de représenter la France ici ou là, en recevant des prix et les plus grandes récompenses internationales pour l'art contemporain. Comment vous avez vécu cette mise en récit de ce que j'appelais tout à l'heure les Jeux Olympiques de l'art contemporain?
Ben, c'est vrai que ces pavillons, la Biennale de Venise, c'est un peu obsolète, le pavillon français, le pavillon ceci. Moi, je me souviens, je l'avais masqué Francia par Casino. J'avais écrit Casino, mon exposition s'appelait Casino, on est en Italie, parce que Casino, en même temps, ça a deux sens en Italie. C'est petite maison ou petit bordel, suivant la prononciation du mot. Mais c'est vrai que ça paraît des pavillons comme ça, suivant différents pays. C'est tout à fait injuste, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de pavillon, qui n'ont pas donc de visibilité, parce que c'est quand même très vu, la Biennale de Venise, parce qu'on a envie d'aller à Venise, hein, c'est le lieu aussi qui...
Et en même temps, la Biennale, c'est jamais que ça. C'est beaucoup de cosmopolitisme et d'internationalisme aussi, parce qu'il y a toujours l'exposition internationale, il y a quand même des gens qui viennent du monde entier. Donc, c'est un mélange des deux, au fond.
Oui, mais ça, heureusement qu'il y a ce pavillon international qui s'appelle le pavillon italien, quand même.
Mais qui, de fait, est plus international qu'italien.
Oui. Aujourd'hui, oui.
Et quel regard, pour terminer, Annette Messager, vous portez sur ces évolutions plus récentes dont on a dit un mot aussi, et sur la place de ces nouveaux acteurs privés qui viennent un peu disputer les institutions publiques dont on a parlé de la naissance dans cette émission?
Mais ils ne disputent pas parce qu'ils ont tellement d'argent que... hier, j'ai vu l'exposition de Richter chez Vuitton, exposition formidable.
Qui vient d'ouvrir.
Aucun musée ne peut faire une exposition pareille.
Ça coûte trop cher.
C'est les assurances, elle est très grande. C'est un très grand artiste, donc elle est formidable, l'exposition. Alors, donc, on ne peut pas dire que c'est quand même très bien, c'est formidable d'avoir cette exposition de Richter en France. C'est formidable. Mais c'est du privé, oui.
Merci beaucoup, Annette Messager. Merci. Nicolas Aimandinger, je rappelle le titre de votre livre, L'État contre la norme, institutions publiques et arts d'avant-garde, France, États-Unis, Allemagne, aux éditions du CNRS. On trouve la référence bibliographique sur la page de la suite dans les idées. Annette Messager, on pourra avoir une exposition de vous à Paris au mois d'avril au musée de la chasse et de la nature. Et puis vous préparez aussi une grosse exposition à Taïwan pour dans quelques mois. Merci.
France Culture. La suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Eh bien, on reste au Centre Pompidou pour clôturer cette émission avec vous, Mathieu Pot-Bonneville. Vous en êtes le directeur du développement culturel et vous venez nous parler rétrospectivement d'une série d'événements que vous avez organisés au long cours dans ce Centre Pompidou et qui fait l'objet désormais d'une publication par les éditions Maison du Centre Pompidou. Ça s'appelle Planétarium. Un atlas pour le monde à venir. Planétarium, c'était le titre de ce cycle que vous avez démarré dans des conditions difficiles. Un cycle qui a démarré dans une actualité sociale assez forte, mais qui s'est vite fait rattraper par une épidémie. Ça ne vous a pas pour autant empêché de tenir bon pendant très longtemps, et ça vous a donné l'occasion de faire dialoguer des chercheurs, des chercheuses et des artistes autour des questions qui concernent au premier chef la planète, au cours des questions qui touchent à notre condition anthropocène, pourrait-on dire.
Et merci Sylvain, bonjour. L'une des choses auxquelles le Centre Pompidou sert et a servi, c'est non seulement à présenter le travail d'artistes novateurs, mais à faire en sorte qu'ils se rencontrent et que les disciplines se rencontrent les unes avec les autres. Cette dimension de creuset et de laboratoire est, je pense, assez importante. C'est un lieu où on se regarde, où les créatrices et créateurs apprennent à se connaître. Et c'était tout le sens de ce cycle qu'on a lancé effectivement entre 2019 et 2020. Donc entre les manifestations massives de Gilets jaunes ou à Santiago ou Hong Kong et puis le monde vidé de la pandémie de Covid. Nous nous sommes dit à ce moment-là que ce serait une bonne idée de réfléchir sur notre condition planétaire commune et d'y réfléchir en compagnie d'artistes et de chercheurs en sciences humaines, anthropologues, histoire, anthropologie, histoire, philosophie, etc., pour faire en sorte qu'ils et elles se rencontrent et nous parlent peut-être de la mondialisation autrement. On avait l'intuition que les questions mondiales étaient plus que jamais à l'ordre du jour et la pandémie allait se charger de le démontrer, mais que on a beaucoup présenté la mondialisation comme une grande homogénéisation du monde, une grande monotonie qui s'abattrait sur la planète. On avait envie de prendre le contre-pied et d'interroger les lieux remarquables que ce régime planétaire aujourd'hui permet de distinguer. Donc on a tout simplement invité des artistes, des chercheuses et des chercheurs à nous parler de lieux qui, selon eux, étaient des lieux cruciaux, des lieux stratégiques, un peu comme une espèce d'acupuncture planétaire où on irait chercher un volcan, un lac, une plage en Écosse, comme l'a fait Tim Ingold, ou le croisement de Minneapolis où s'est déroulé le meurtre de George Floyd, et nous parler de ces lieux-là. Voilà, c'est vraiment un principe d'atlas assez rêveur.
La dimension géographique est très très importante. C'est à la fois pour que les choses soient situées, les objets sont situés, les objets dont vous parlez, évidemment les gens qui parlent aussi, mais ces doubles situations, ces coordonnées au fond sont très importantes.
Oui, c'est assez fascinant dans la période récente de voir comment la géographie qui était au fond la mal-aimée des sciences humaines, celle qui était un peu dépréciée, est devenue la discipline reine et que toutes les sciences humaines, et au fond tous les arts, en tout cas beaucoup d'artistes sont était obligé de se faire géographe. Voilà, de devenir attentif
peut-être
au territoire.
Est-ce lié à la panique qui s'empare de nous lorsque les cartes disparaissent au profit des GPS? En fait, on a peut-être besoin de se tourner vers les géographes davantage.
Alors, on s'est intéressé très vite aux questions cartographiques. On a reçu Frédéric Aït-Touati, qui a réinventé justement de manière nouvelle carte pour travailler sur la zone critique et l'habitabilité du globe. Et puis, on a travaillé avec un formidable artiste qui s'appelle Éric Vallette et qui, chaque session, presque chaque mois, accompagnait les rencontres avec une sorte d'immense inventaire dessiné qui se déployait derrière la tête des intervenants dans un très grand écran où on faisait en quelque sorte l'inventaire visuel de notre imaginaire des lieux.
Voilà. C'est-à-dire que, puisque j'ai assisté à quelques-unes de ces séances, il dessinait à la palette graphique pendant que parlaient, échangeaient les deux invités. Il avait quelques éléments
Il avait de multiples
amorcer.
Calques qu'il avait en quelque sorte décalqués sur des supports très différents les uns des autres. Ça allait du timbre-poste jusqu'à l'œuvre d'art contemporain qu'il composait, recomposait et retravaillait, rebrodait en quelque sorte en direct, de manière à montrer le fond, l'arrière-fond de notre compréhension du globe et puis à montrer aussi les transformations de cet imaginaire planétaire, parce que la planète que nous habitons n'est plus exactement celle sur laquelle nous avons appris à marcher.
C'était très précieux, c'était une très bonne manière de se débarrasser des affreux PowerPoint qui polluent de plus en plus les prises de parole publiques en fait. Et du coup, ces propositions graphiques, ces dessins, on les retrouve au cœur de la proposition graphique cette fois du livre qui est issu des rencontres, parce que les rencontres elles sont terminées. Et aujourd'hui, la trace que vous avez décidé de laisser a consisté à aller picoré dans le cycle. Il y avait beaucoup trop de choses pour en faire un livre exhaustif, mais ce livre a été en large partie construit autour des propositions graphiques également.
Oui, tout à fait. Ce qu'on s'est dit avec Charlène Dinu, qui est co-commissaire en quelque sorte de cette exposition de papier, c'est que d'abord on allait avoir des textes et des images, puisqu'on a à la fois des contributions de Nastasia Martin, de Tim Ingold, de Homi Bhabha, etc., et puis des œuvres, des portfolios de Lily Reynaud de Var, de Liu Chuang, de Mathieu Aboninck, donc de tous les continents en quelque sorte. Donc on allait avoir des textes et des images. C'était très compliqué de faire coexister dans un livre des textes et des images, de telle sorte que les images ne deviennent pas l'illustration des textes, ni les textes les légendes des images. Et donc on a installé en tiers les interventions graphiques de, d'Éric Valette, qui viennent manger les marges, les pages de garde, etc., et qui fabriquent un savant désordre entre les différents régimes visuels de ce livre, de telle sorte que la linéarité du propos se trouve compliquée par cette espèce de feuilletage ou de trame de fond qui vient rappeler toutes les formes visuelles dont il nous faut aujourd'hui faire l'inventaire pour imaginer d'autres façons de regarder la planète.
Quand on consulte à la fin de l'ouvrage la liste de tous les invités de Planétarium, on est très impressionné. Elle est longue et elle est emplie de noms de gens dont les travaux, qu'ils soient de l'ordre de l'écriture ou de l'ordre des arts plastiques ou du cinéma, sont très impressionnants. Qu'est-ce qui a présidé au choix que vous avez dû faire pour ce livre, de ne retenir que certaines des interventions?
Oh, c'était très délicat. D'abord, nous avons retravaillé sur les premières années du cycle. Depuis le 2020, les trois premières années pour des raisons pratiques. D'ailleurs, ça veut dire que le monde qui est décrit dans ce livre n'est pas exactement celui qui est le nôtre aujourd'hui, qu'on
voit
affleurer.
Déjà un monde du passé.
C'est ça, mais c'est intéressant, ça montre un bouger. Comme disait Deleuze, c'est ce que nous sommes, c'est-à-dire ce que nous cessons d'être. Et ça, on le voit très bien. Donc on a re-sollicité un certain nombre de contributrices et de contributeurs, dont les propositions... En live, si j'ose dire, avait été véritablement construite in situ, c'est-à-dire vraiment imaginée, proposée pour le cycle lui-même, dans ce moment de parole, parce qu'on voulait que ce lieu ne soit pas seulement un lieu d'expression pour des grandes voix, on a reçu beaucoup de monde dans ce cycle, mais vraiment un laboratoire où on puisse inventer des formes un petit peu nouvelles, où un photographe comme Smith puisse écrire un texte, où une géo-astrophysicienne puisse montrer des photos stratigraphiques de la planète Mars, ce genre d'étrangeté.
Vous disiez beaucoup de grands noms. J'aurais juste cité la dernière phrase de votre introduction. Croisez ici au détour de chaque page, on pourrait dire de la tour, ce que Galilée, martelant le sol de son pied, objecta à ses juges, et pourtant il tourne. Il faut que vous nous expliquiez.
Bruno Latour, la silhouette de Bruno Latour flotte évidemment sur ce livre. Ça a été l'un des tout premiers invités de Planétarium. Et il a discuté à l'époque avec Philippe Ken, le metteur en scène, qui avait installé au cœur du Centre Pompidou une grande île, un décor, une île déserte qui tournait sur elle-même. Et Bruno a décidé que la rencontre se tiendrait là-dessus, c'est-à-dire qu'ils se jucheraient l'un et l'autre avec la philosophe Camille Louis, en troisième larronne, sur l'île qui tournait, de telle sorte que le public installé sur l'un des côtés voyez apparaître côté court les trois invités qui discutaient dans ce mouvement rotatif, et puis ils disparaissaient. On entendait simplement leur voix de l'autre côté. Évidemment, de la part de Bruno Latour, c'était une manière de rappeler que la question où atterrir, la question des coordonnées où s'installent nos existences était intéressante et que ce monde bouge. C'était à la fois très burlesque. On peut le retrouver en vidéo. Toutes les séances de Planétarium sont en vidéo. Il y a même un code QR code à la fin du livre pour les retrouver, mais les voir ainsi tourner sur eux-mêmes en parlant, c'était une expérience à la fois très burlesque et tout à fait parlante dans ce moment de la pandémie où le monde s'inquiétait sous nos pas.
Alors le cycle Planétarium est achevé, le centre Pompidou, le bâtiment a fermé ses portes, ça ne veut pas dire que l'institution, elle, les a fermées. D'ailleurs, dans la première partie de l'émission, on a vu que le centre Pompidou, d'une certaine façon, n'avait pas attendu d'ouvrir pour exister. Et aujourd'hui, vous proposez d'autres types de rencontres qui sont la suite de ce Planétarium.
Pompidou ne ferme pas, il se métamorphose.
Voilà, c'est ça.
Constellons, c'est-à-dire en fait que nous voyageons avec la mélancolie. Comme disait l'éducation sentimentale, il voyage. Eh bien, nous voyageons et il n'est pas du tout exclu que le cycle Planétarium reprenne l'an prochain dans de nouveaux lieux avec de nouveaux partenaires, parce que les voyages, voir du pays, c'est évidemment une nécessité pour ce genre d'aventure.
Et qu'on ne s'arrête jamais de tourner. Merci Mathieu Pottebonneville. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marsay. À la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. À la réalisation, Sorge Leroy.